Bonsoir et bienvenue à cette troisième séance de notre série Relire avec des écrivains à l'écran. Arnaud Bertina va relire Claude Simon. Nous allons relire Claude Simon avec Arnaud Bertina et nous allons projeter le film consacré à Claude Simon par Roland Allard dans la série des Hommes Livres qu'a produite Jérôme Prieur qui est dans la salle et qui pourra, si vous souhaitez, répondre à des questions sur le film éventuellement après. Donc le principe de la série, il est simple, j'ai pas besoin de le rappeler. L'idée, c'était simplement de profiter de la très belle réserve de films documentaires sur des écrivains qui sont conservés à la BPI et dont s'occupe Catherine Blangonnet. Voilà, nous sommes donc, nous, les Revues Parlées, associés à la BPI pour proposer à des écrivains vivants de venir parler de certains écrivains, en général morts, ce ne sera pas le cas à chaque fois. Arnaud Bertina donc a bien voulu venir parler de Claude Simon. Arnaud Bertina a publié plusieurs livres, en général des romans, Le Dehors ou La Migration détruite, et puis Apogeo chez Actes Sud. Plus récemment, deux romans chez Vertical, Anima Motrix et Ma solitude s'appelle Brando. Entre les deux, des choses chez d'autres éditeurs. Par exemple, J'ai appris à ne pas rire du démon chez Naïve. Ou un livre qui s'appelle La déconfite gigantale du sérieux, mais qui n'a pas été écrit par Arnaud Bertina, puisqu'il a été écrit par Pietro Di Vaglio. Et quelques autres publications dont La borne SOS 77 avec des photographies de Ludovic Michaud aux éditions Le Bec en l'air. Arnaud Bertina par ailleurs a écrit quelques articles et quelques essais sur d'autres écrivains, François Bon, Nicolas Bouvier, enfin et quelques autres. Il me semble pas que Claude Simon ait fait l'objet d'une étude critique publiée à ce jour, donc c'est une première, c'est très bien. Et un fait un peu étonnant ou intéressant, je ne sais pas très bien en fait ce que les jeunes écrivains aujourd'hui pensent de Claude Simon, s'ils le lisent, s'ils ne le lisent pas. Et Arnaud Bertina vient de me dire qu'Oliver Rouet, qui est un de ses amis et qui est aussi un des animateurs de la revue Inculte, était invité dans quelques jours sur France Culture pour parler de Claude Simon aussi. Alors c'est une coïncidence intéressante. Et vous écouterez, je ne sais pas quel jour c'est, mais en tout cas pour ce soir, je laisse d'abord la parole à Arnaud Bertina pour parler de Claude Simon et nous regardons le film ensuite.
Merci beaucoup. Merci à Omar Berda et Catherine Blangonnet de m'avoir, et Marianne Alphand qui n'est pas là, de m'avoir invité à présenter ce soir ma lecture de Claude Simon. Juste une petite parenthèse. J'ai 39 de fièvre à cause d'un vaccin contre la fièvre jaune. Et donc si jamais vous me voyez trembler ou me mettre à pleurer ou je ne sais quoi, ce ne sera pas sous le coup d'une émotion provoquée par Claude Simon ou par votre présence, mais juste la faute de l'Institut Pasteur. Cette présentation de ma lecture de Claude Simon ou de mon rapport au livre de Claude Simon, j'ai voulu l'intituler « Simon est une fleur ». Bonsoir. Quand est paru mon premier roman, Le Dehors ou la migration détruite, en 2001, quelques personnes m'ont dit que l'influence de Claude Simon était parfois sensible dans certaines pages du roman. À cette époque, je n'avais lu que La Route des Flandres, en 1997, et cette première lecture ne m'avait laissé que le souvenir d'un brouillard de personnages et de situations, de discours enchevêtrés, brouillard troué par une ou deux scènes érotiques foudroyantes. Je crois me souvenir que ce roman ne m'a paru pas d'emblée capital, mais dans les carnets remplis alors, j'ai découvert, il y a peu, qu'en 1997, j'ai aussi commencé les Géorgiques, en fait. Puis plus rien jusqu'en janvier 2001, date à laquelle j'ai lu Histoire, dont je n'ai plus aucun souvenir. Mais à cette date, Le Dehors est terminé depuis 6 mois. En juillet de la même année, je lisais Le Vent aussi, ce qui fait plus que je ne pensais. Ce constat, donc, d'ores et déjà, si mes premières lectures simoniennes ne m'ont pas subjugué, me laissant face à une paroi opaque, trop dense et aride, néanmoins je continuais d'acheter ou d'emprunter ces livres. Quelque chose était donc enclenché, qui ne se passait pas à la surface, mais en un endroit que je ne pouvais pas observer. Quoi qu'il en soit, quand quelques personnes me parleront du dehors comme d'un livre influencé par Claude Simon, je serai étonné. Intéressé, flatté, je ne marquerai aucune surprise. Mais enfin, comment comprendre que l'on puisse se réveiller sous l'aile d'un auteur, influencé par lui, sans l'avoir lu ou sans l'avoir digéré, en tout cas ? Comment comprendre que mon époque, la fin des années 90, soit à ce point la sienne aussi, ou soit encore celle de la route des Flandres ? Si j'avais encore peu lu Simon, j'avais déjà lu Sanctuaire et Le bruit et la fureur, ainsi que plusieurs livres de François Bon. Deux chocs personnels qui, par des voies détournées, préparaient le terrain pour Claude Simon en moi. Les attaques de paragraphes de François Bon, par exemple, dans Prison ou Paysage fer, m'avaient marqué au point que j'ose les imiter dans mon premier roman. Je devais, bien plus tard, trouver les mêmes segments abrupts dans Le Palace, par exemple, et me découvrir alors influencé par Claude Simon. D'autres auteurs eurent peut-être le même rôle que François Bon dans ce passage de témoin, des auteurs dont je ne connais pas la généalogie artistique, qui ont annoncé Simon ou qui l'ont lu. Il n'y a peut-être pas en ce sens de lecture secondaire ou inutile. Il est possible, oui, que ce soit un auteur de cinquième ordre qui m'ait initié sans que je le sache et sans qu'il le sache lui-même à l'œuvre de Claude Simon, à la lenteur de sa phrase, à son déroulé inéluctable. Une anecdote. L'aristocratique Marguerite Duras fit gloups, heurtée, lorsque Jean Paulhan, qu'elle interrogeait pour la télévision, lui répondit qu'il ne s'était jamais lassé de lire les manuscrits que lui apportait le facteur chaque jour, affirmant même que dans chaque livre, chaque manuscrit, il était parvenu à trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose qui intéresse la littérature. Ces œuvres de troisième ou quatrième ordre, qui ne laissent en nous que la trace des autres, avant de tomber dans l'oubli, c'est un peu l'humus ou le terreau qui assurera la repousse, nous dit le narrateur de la recherche, de l'herbe drue des œuvres fécondes sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de ceux qui dorment en dessous, leur déjeuner sur l'herbe. Ainsi, quelle que soit la difficulté d'une œuvre, du vivant de son auteur déjà, elle commence à ne plus appartenir. Des pièces tombent du trésor, elles sont ramassées et immédiatement placées font des petits. Des œuvres comme celle de Claude Simon sont des bouillons de culture qu'aucun récipient ne peut contenir. Ça goûte par en dessous, ça se volatilise par le dessus et ça nourrit, plutôt que contamine, tous les Pékins passant par là, à portée. Ce désordre chronologique, de Faulkner à François Bon, pour mettre à jour Simon en moi, qui fait apparaître un ordre supérieur, et cette dispersion invisible, pollinistique, vont bien à Claude Simon. Ces influences qui passent dans l'air du temps et qu'on appelle la vulgarisation d'une idée ou d'une façon de voir sont aussi imperceptibles que l'herbe qui pousse et que l'histoire en train de se faire. Deux obsessions de l'auteur des Géorgiques. En 1995, j'ai 20 ans, je suis en licence et pour que mes parents ne se saignent pas pour moi, je travaille dans une librairie qui est ouverte jusqu'à minuit. Là, un collègue m'apprend que Beckett n'a pas écrit que pour le théâtre. Sur le programme des rencontres de l'Odéon, je coche la date à laquelle le comédien Pierre Chabert doit lire un extrait de l'Innommable et j'en ressors estomaqué. L'arc de cercle des immeubles qui font face au théâtre de l'Odéon ne dessine plus une place élégante, parisienne, mais les bras grands ouverts de la littérature contemporaine ou moderne. On a donc le droit de faire ça, d'écrire comme ça, de faire entendre un tel souffle, de démembrer la syntaxe à ce point. Il est donc possible qu'un corps soit à ce point vivant en scène du fait des seules cadences du texte. J'ai le droit d'écrire autrement qu'à la fac, autrement que dans un volume de la Pléiade. Il existe un mot pour ce type d'expérience dépucelage. Mais si cette découverte de Beckett, très naïve, très touchante, m'ouvre les bras de l'espace contemporain et de ses enjeux, elle me laisse aussi face à une page blanche. Car après avoir biberonné l'œuvre romanesque de Sartre depuis l'âge de 13 ans, tous mes désirs d'écriture ont à voir avec des formes de réalisme qui, même si elles sont parfois contrariées ou perverties, restent totalement étrangères au type de littérature inventée par Beckett. Cette lecture, par Pierre Schreiber, est une fantastique levée d'écrou, mais elle n'est pas un embrayeur, en quelque sorte. Je peux marcher, mais je ne sais pas marcher. Le paysage est immense, mais aucune voie n'est tracée. La neige est immaculée, c'est très beau, mais ça ne m'aide pas. Je retourne donc travailler. Et ce collègue libraire, Georges Bourgueil, me parle de François Bon. Ou s'il ne m'en parle pas, je vois en tout cas apparaître Parking et Prison. J'ai 22 ans et je reçois une claque. Cette langue est parfois aussi étrange que celle de Beckett. La syntaxe en est en tout cas aussi violentée. et ces violences ou ces tours inconnues libèrent des forces expressives invraisemblables. Mais à la différence de Beckett, François Bon décrit le monde dont nous sommes les contemporains, les marginalités sociales et géographiques. Il n'y a donc pas contradiction, voilà ce que je découvre, entre un travail formel qui irait jusqu'à défigurer la langue commune et une intention réaliste qui manifesterait une ambition politique au sein de l'espace littéraire. La neige est toujours immaculée, mais je sais désormais que je dispose de certains repères dans le paysage qui m'aideront si je me perds. J'entreprends mon premier roman. Et dans ces années-là, donc, toujours libraire, découvre les livres de Claude Simon. Je me souviens d'un dandy, Germano Pratin, entrant un soir dans la librairie et s'arrêtant devant la table des nouveautés que nous mettions en avant. Au hasard, il feuillette le Jardin des plantes, qui vient de paraître, et sans marquer le moindre temps d'arrêt, sûr de son fait et plein de sollicitude, il m'apporte l'exemplaire en me proposant de le renvoyer à l'éditeur car il y a manifestement eu, il me montre les pages où Claude Simon imbrique deux récits l'un dans l'autre, un défaut à l'impression. C'est voulu, monsieur. C'est voulu ? Je voudrais bien synthétiser en quelques mots l'ambition de Claude Simon avec ce livre, mais d'autres clients attendent d'être encaissés. Je m'en tiens à un sourire entendu. Oui, c'est voulu. Il le reposera sur la pile, contrarié d'apprendre que pendant le bon repas qu'il vient de s'offrir, la littérature en a profité ce soir-là pour faire n'importe quoi. J'ai 23 ans, je découvre les livres de Claude Simon et ils produisent sur moi l'effet que je tentais de décrire tout à l'heure. Ils me plongent dans le brouillard. Je flotte, ne perçois que des bribes de scène avant de décrocher parce que le texte vient de bifurquer à nouveau pour explorer un énième chemin de traverse. Si je perdais de vue le fil des phrases proustiennes quelques années auparavant, c'était toujours en parvenant à me raccrocher assez rapidement à l'intrigue du moment et, parfois, au mouvement général de la recherche. Dans La Route des Flandres, au contraire, je patauge. Si Sartre, Beckett et François Bon me donnaient un discours peu ambigu sur le monde, Claude Simon, lui, me laisse aussi déconfit que le dandy Germano Pratin. Mais quelque chose me fascine, les géorgiques me fascinent, que je ne termine pas pourtant. Les géorgiques me fascinent comme le très beau Fiorille et des frères Taviani. Alors je m'accroche, quelque chose est à gagner. Je me coltine cette aridité. Je devine qu'elle n'est que le produit de ma résistance. Quand je lâche, quand j'accepte de me laisser guider par le texte, n'exigeant aucun confort de lecture, le texte s'avère hypnotisant, halluciné. J'ai voulu prendre un exemple, et c'est évidemment un exemple parmi plein d'autres. C'est la citation que je fais est coupée aussi bien au début qu'à la fin. Dans un spasme, semblable, assimilable à une courte mort, un brusque anéantissement, en réalité une brève éclipse de cette lancinante conscience, comme si celle-ci cessait d'exister pendant la durée correspondant à cette parcelle d'elle-même qui se détache, dans un foudroyant arrachement dont on ne sait au juste s'il s'accomplit à la faveur d'un paroxysme de plaisir ou de douleur, puisqu'aussi bien d'ailleurs il semble que dans ce moment se produise une confusion. L'éjaculation étant ressentie à la fois par la chair et l'esprit comme une sorte d'éblouissement sombre, éclatement chamarré de plumes de coq s'éparpillant dans le cerveau de l'homme en même temps que dans l'obscure et rouge nuit de la matrice. D'où peut-être, fusée, explosion, l'expression populaire s'envoyait en l'air, qui semble remonter à ces mythes originels de la gigantomachie ou des créatures aux noms Uranos, Saturne, et aux dimensions de monde, s'accouple, lutte farouchement sur le fond bleu nuit du ciel encore sans astres, et ce mâle frustré de son désir, sa géante conquête assaillie, se dérobant d'un coup de rein, la semence se répandant, voie lactée, pollen polluant notre mère la terre, d'où lève aussitôt sous nos yeux horrifiés une descendance maudite. Comment Simon parvient-il à créer les conditions nécessaires à cet embrasement du texte et du lecteur ? Un exemple parmi beaucoup d'autres. Qu'une boîte de cigares se présente dans le palace, et Simon en décrira la bague, le cadre doré et la miniature qui l'encadre, sur 3 pages. Car dans cette miniature, qui nous a fait quitter la Barcelone anarchiste de 1936, Simon retrouvera tout un monde de conquistadors et de territoires vierges, un monde d'exploration intimement connecté avec Barcelone, puisqu'une statue de Christophe Colomb termine les Ramblas. L'infiniment grand dans l'infiniment petit, l'infiniment loin dans l'infiniment proche. Une autre anecdote. 5 ou 6 fois, je me suis rendu à Maule, à côté de Mantes-la-Jolie, pour rencontrer Claude Lier, qui riait beaucoup aux souvenirs de Simon, qu'amusaient beaucoup certains commentaires de ses livres, commentaires très érudits ou philosophiques, alors que la seule chose qu'il entendait, lui, Simon, ou avait retenu des philosophes, disait-il, était cette sentence « Tout est dans tout et inversement ». Rire des deux Claude, Ollier et Simon. En découvrant ce passage, les cigares, et en me souvenant de cette blague de vieux singe, je touche au cœur la puissance des romans de Claude Simon, bifurquer dès qu'un mot fait apparaître un territoire adjacent, bifurquer pour l'explorer comme on visite toutes les pièces d'une maison, quitte à en perdre momentanément de vue le schéma de construction. Et conséquemment, s'enfoncer dans le visible, aller de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, et retour, comme dans ce passage de la bataille de Pharsale où il est question, citation, d'une sorte de partage, de même qu'au commencement du monde entre la terre et l'eau, de la lumière et des ténèbres, comme une double migration de particules ou de molécules se divisant, se séparant, s'amassant, se rassemblant de plus en plus vite. Ce que je découvre dans l'œuvre de Claude Simon entre 1997 et aujourd'hui, c'est une incroyable touffeur textuelle et temporelle. Après Beckett explosant la forme et François Bon réconciliant travail de la phrase et restitution du monde, vient dans mon parcours l'œuvre de Simon qui va affirmer une passion érotique dont la forme sera verticale et horizontale. Comme l'herbe qui pousse, l'histoire en train de se faire serait impossible à voir. C'est du moins ce qu'affirme Pasternak, cité par Simon en exergue à l'herbe. Mais sitôt passée cette citation, le lecteur s'enfonce dans un texte qui travaille précisément à rendre sensible et visible ce mouvement. Un texte qui n'a d'autre ambition que d'aiguiser le regard pour qu'il se montre capable de voir enfin ce qui est à l'œuvre, un lent mouvement de poussée vitaliste inextricablement lié à un autre de dégénérescence morbide. Simon, je crois, est tout entier dans cette traque et dans cette restitution des perceptions qui échappent à la conscience, à la manière d'un Leibniz qui voulut mettre l'accent sur les petites perceptions. Lorsque nous sommes sur le rivage, nous entendons bel et bien un bruit, autrement dit l'unité, en l'occurrence acoustique, d'un tout. Mais Leibniz remarque que cette totalité n'existe qu'en raison d'une infinité de parties, le bruit de chaque vague lui-même constitué du bruit de chaque goutte assemblée à toutes les autres qui nous échappent néanmoins. Simon, Claude Simon, veut se pencher sur cet infiniment petit, cet infiniment délicat, car il sait que de son exhumation, de son apparition, va dépendre la nouveauté du tout, le renouvellement du visible, des formes admises. Les anneaux du style, comme disait Proust, ont cette force-là, chez Claude Simon, dont la phrase procède par plis, déplis et replis. À couper les cheveux en quatre, la phrase de Simon finit toujours par s'avancer à la fois fine, infiniment fine, et grosse, très grosse, de tous les mots et adjectifs qu'elle a approchés avant de les disqualifier pour plus précis. Truffée de parenthèses, la phrase de Claude Simon est à la fois subtile comme une dentelle, lorgnant vers l'imperceptible tout entraînant à sa suite inévitablement tous les mots qu'elle a essayés et qui constituent donc une sorte de marée matérielle, minérale, végétale, animale et humaine, qui viendra s'écraser contre le point final de la phrase comme une vague énorme contre la digue ou la falaise. Tout est dans tout, à charge pour moi, m'apprend Simon, d'être capable de la même lenteur qui se transforme chez lui en vitesse, de la même obstination qui devient chez lui la condition de la vision, une sorte d'ouvroir à image hallucinée. La phrase de Simon force ainsi le regard et l'intelligence, elle les aiguise, pour les rendre capables de se porter à ce point de finesse. Si le mouvement de la phrase est centripète, à partir d'un épais bloc noir, j'emprunte cette image à Deleuze, la phrase creuse et vide pour rendre visible et sensible et intelligible ce qui ne l'est pas. Donc si le mouvement de la phrase est centripète, il est aussi progression, amassement. L'ambition de Simon est donc non contradictoire. Ses livres réalisent deux mouvements simultanément. Creuser ne s'oppose plus à amasser, concrétion ne s'oppose plus à dissection ou analyse, bifurquer ne s'oppose plus à approfondir. Cette pensée ou cette pratique du texte non contradictoire sont incroyablement entraînantes, stimulantes. Elles font vivre une passion verticale, cette recherche harmonique dont Simon parle dans tous les textes théoriques qu'il a pu écrire et qu'il a magnifiquement mis en œuvre dans Le Jardin des Plantes, et dans le même temps une passion horizontale, le déroulé de l'histoire, d'une intrigue, car Claude Simon affirmait, contre Robe-Grillet, que le roman, c'est une histoire. L'œuvre de Simon est portée par cette ambition d'une ampleur fantastique qui donne le monde renouvelé par l'exploration de la langue, sans sacrifier l'une à l'autre. Chez lui, le formalisme le plus poussé est un moyen de revenir au monde. La construction très déroutante du Jardin des Plantes, par exemple, est une façon de mieux décrire un certain XXe siècle en l'arrachant aux façons convenues de raconter l'histoire. Il n'est pas anodin de dire aujourd'hui que le monde, le dehors, sont présents dans toutes leurs dimensions dans les livres de Claude Simon, qu'ils y ont une épaisseur, une consistance phénoménale et que les phrases de Simon ont un punch parfois sidérant. Il n'est pas inutile de le dire aujourd'hui puisque des auteurs, des journalistes et des essayistes se font entendre qui hurlent un discours connement réactionnaire. Pardon pour cette redondance. Pour eux, Michel Lebris, Svetan Todorov, Donald Morrison, cette littérature née du nouveau roman serait la mort de toute littérature à force de cérébralité et d'obscurité. Il y en aurait assez de ces diktats qui les empêcheraient d'écrire aujourd'hui encore en 2009. Je vais traiter ces discours exactement comme Claude Simon a traité les journalistes qui écrivaient contre lui dans son discours de Stockholm, en disant que ces discours ne sont même pas drôles, mais qu'ils attestent en revanche au corps défendant de ceux qui les co-signent, l'extrême vitalité de certains livres étiquetés nouveaux romans, car cela fait 20 ans que le nouveau roman n'occupe plus le devant de la scène et il continuerait donc d'en effrayer certains. Sans le vouloir, sans le savoir, les signataires du Manifeste pour une littérature monde ont donc rendu en 2008 un magnifique hommage à Claude Simon. Mort, il les tétanise encore. Il les tétanise car il l'embrasse large et ne cherche jamais à réduire cette amplitude. Il ne s'interdit aucune bifurcation. Son appétit, sa curiosité ne pouvaient être contenus. Il a l'œil vif, pétillant, ça vous le verrez dans le film, sur toutes les images. Il est drôle, mais il n'y entrave que quick. Il donne corps à des visions, mais cela fait longtemps qu'ils ont refermé le livre, qu'ils disent laborieux, terne, car il ne tient aucun propos clair sur la vie, les fleurs, l'amour. Claude Simon se méfiait par-dessus tout des discours, et il m'a appris à m'en méfier, à en traquer la présence dans les livres que j'écris. Alors que les discours alarmistes, catastrophés, ont toujours bonne presse, Claude Simon se coltine l'illisibilité du monde, et il s'y confronte sans chagrin. Le monde est, un point c'est tout, il se passe de signification, déplorer cela n'a absolument aucun sens. À ces discours chagrins, j'oppose donc la passion érotique de Claude Simon, son acceptation des forces qu'il découvrait à l'œuvre et qu'il ne cherchait pas à cadenasser. Dustel, défigurer le texte, l'hypertrophier, l'énormifier. Chaque page de Claude Simon dit une sorte de fascination, parfois horrifiée, parfois amusée, parfois désirante, pour le fait d'être en vie. Et ce goût annule la peur. La vie est incroyablement profuse et contradictoire. Seule la littérature pourra lui donner une forme, via la métaphore, qui condensera cette profusion sans la réduire. La métaphore condensera tout un ensemble de tensions fantastiques qui sont toujours montrées par Simon au bord de l'implosion de la déchirure. Tout le mouvement de l'histoire sera ainsi lisible dans le corps d'une vieille tante en train de mourir, dans l'herbe. Toute la guerre dans deux journées d'un palace réquisitionné, dans le palace, ou dans un sabre levé à contre-temps dans la route des Flandres. Simon est un puissant métaphoriste. Au contraire d'être postmoderne et d'épousseter les ruines des grands récits, sa littérature dit une confiance infinie dans les pouvoirs de l'art. Voilà ce que j'ai appris en lisant Claude Simon. Voir venir, laisser venir. Accepter d'être dans le brouillard pendant 200 ou 300 pages. En tant que lecteur, ne rien exiger de l'auteur, lui faire confiance, attendre. Accepter de voir le monde tel qu'il me le présente, plutôt que de commencer le livre en exigeant de s'y retrouver dès les premières pages. Autrement, l'expérience n'a évidemment aucune valeur. Voilà ce que Claude Simon m'a appris. Croire dans l'intelligence du lecteur, parier sur elle, parier sur le fait que, passé une certaine étape, où le texte aura semblé dur, fermé, aride, le livre s'ouvrira comme une fleur, il éclatera dans des dizaines de directions, éblouissement sombre, éclatement chamarré de plumes de coq. Il m'a appris à tenter tous les dispositifs possibles, à être en mouvement. Claude Simon, mort en 2005, m'a appris l'extrême jeunesse. De livre en livre, il s'est toujours trouvé ailleurs. Sa musique semblait toujours la même, mais le livre, son dispositif, était toujours différent. Un cliché veut que seuls les peintres continuent de produire des chefs-d'œuvre au-delà d'un certain âge. Et on cite toujours le Titien ou Picasso. Mais il se trouve que certains écrivains ont cette énergie. L'extrême jeunesse ou verdeur de Claude Simon s'est manifestée une dernière fois avec Le Jardin des Plantes, livre d'une mobilité formelle et bourrifante. Lors de sa parution, Claude Simon avait 84 ans. Je vous remercie. Et donc, juste un petit mot pour dire que le film, en fait, qu'on va voir, date, sauf erreur, de 1995.
Et donc,
en fait, il restait encore deux livres à paraître de Claude Simon, Le Jardin des Plantes et Le Tramway, avant 1995.
Donc, avant. Bon, en fait, le date de 1988.
88, voilà. Ouais. Mais simplement, on entend à un moment Marianne Alphand et Claude Simon commencer à évoquer Le Jardin des Plantes. Voilà, c'est juste pour situer un peu le.
Donc, nous allons regarder le film et peut-être si vous avez des questions sur l'intervention et ou sur le film ou sur Claude Simon en général, Arnaud Bertina voudra bien reprendre la parole et éventuellement Jérôme Prieur aussi. Bonne projection. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il est plus là, hein. Arnaud Bertina répondra à lui. Ah, Jérôme Prieur a quelque chose à dire.
Oui. Contrairement à Claude Simon. Non, je voudrais juste faire l'éloge des absents, enfin de l'absente, parce que bon, Marianne Alphand s'est fait porter pâle. Pour pas prêter confusion entre ses fonctions actuelles depuis un certain temps à la tête des revues parlées et le fait que ce film soit programmé, et le fait qu'elle y joue un rôle. Mais enfin, ça me paraît anecdotique. Quand je revois le film que j'ai pas vu, je crois, depuis 20 ans, que j'ai vu beaucoup à l'époque, évidemment, je suis frappé de voir comment elle y va comme un petit soldat face à l'ogre, parce que Claude Simon, vous avez compris que il se laissait pas faire et qu'il voulait pas se laisser entraîner sur un terrain où il avait pas du tout envie d'aller. Et donc, je vois le vieux général, le vieil officier, se défendre et en face de lui, ben, l'interlocutrice, Marianne Alphand, qui petit à petit essaye de pas lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire, mais de lui faire accepter un certain nombre de propositions et qui l'amène insidieusement, enfin, à un tel point qu'à la fin, il finit par se rendre, enfin, quand il avoue que la lecture qu'elle lui a fait faire est celle de, enfin, d'une sorte d'art poétique. Il y a un renversement de situation par rapport au début où cette image d'Orion aveugle, Claude Simon refuse obstinément qu'elle soit une métaphore de son œuvre. Enfin, c'est une métaphore comme mille éclats d'une œuvre. Enfin, ce serait idiot de vouloir résumer une œuvre à une seule image. Mais et l'œuvre de Claude Simon montre qu'il y a multitude, foisonnement d'images, hein, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Et je trouve que ça montre bien ce film. Pour en revenir au film, ça montre bien. L'importance du rôle de l'interlocuteur, de celui qui est en face, qui ne doit pas se faire valoir comme interlocuteur, mais qui doit petit à petit amener l'autre à faire son autoportrait. Et donc, ceux qui ont vu les séances précédentes, ceux qui ont vu le film sur Louis-René Desforêts, qui était le premier de cette série, ceux qui se souviennent d'Henri Thomas ou de Jean Grosjean, qui ont été faits en même temps que ce film sur Claude Simon, verront à quel point, à chaque fois, il y a une stratégie différente par rapport à un rapport à la langue, à l'écriture, qui est différent, et qu'il faut trouver la juste mesure, et que ce qui s'éclaire de l'auteur à chaque fois éclaire à chaque fois l'œuvre d'un jour différent et fait en sorte que la phrase liminaire de Claude Simon citant Robe Grillet sur l'auteur qui est refait prend une, je trouve tout au long du film, une acuité dont je me souvenais pas. Enfin, l'œuvre de Claude Simon dépasse le gardien du temple qui est Claude Simon. Voilà. J'avais le souvenir d'un homme qui était en sentinelle, qui était posté en sentinelle devant son œuvre, et je le retrouve, mais je retrouve quelque chose de plus vivant, de plus brûlant que quand Claude Simon était vivant. Voilà.
Merci. Pas de commentaires. Non. Ah, pardon.
Oui, je me rappelle quand il a eu le prix Nobel en 85, on avait dit que c'était un poète, puisqu'on ne connaissait pas trop la personne, et puis après, bon, depuis quelques années, enfin, je vois un peu mieux qui il est, disons, je connais pas énormément non plus, et la poésie, c'est le côté interne de son œuvre, non ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très souvent, à cause justement de cette difficulté de lecture, on a le sentiment, en découvrant ses livres, que ça n'a absolument rien à voir avec la poésie. Mais c'est toujours la même chose avec certains auteurs, il faut faire l'effort de les lire à haute voix. Et là, vous vous rendez compte à quel point le rythme est le texte est scandé, rythmé, et à quel point justement il y a une matérialité de cette langue-là qui est incroyable, une chatoyance comme ça. J'avais relevé deux passages que j'aurais aimé lire si j'avais eu plus de temps, et qui sont des passages incroyables où on a vraiment le sentiment à ce moment-là. Vous savez, il y a des pareil dans les clichés qui circulent, on dit toujours que l'anglais est une langue beaucoup plus rythmée que le français, etc. Ben non, il suffit de voir des auteurs qui savent écrire le français justement et qui savent en rendre toute la puissance, quoi, pour justement se rendre compte que le français ne démérite absolument pas en termes de rythme et de densité par rapport à l'anglais, quoi, de plasticité, quoi. C'est par ce biais-là, oui, par cette extrême attention en fait qui porte à la langue, et aussi par la rapidité de certaines des visions qu'il a, la rapidité qu'il a dans la façon de la rendre, de rendre ses visions. Là, oui, ça se rapproche aussi de la poésie, quoi. C'est-à-dire que là, il y a des moment de condensation. C'est très paradoxal de dire ça chez Simon, parce qu'au contraire, on a l'impression que ça se joue toujours dans la longueur. Et l'image qui lui colle à la peau, comme un peu à Balzac, c'est justement de quelque chose de très très lent, de très paysan. Or, c'est pas vrai. Justement, quand on regarde certaines pages, comment elles sont construites, on se rend compte qu'il y a des moments d'accélération incroyables, et qui là, oui, font que le texte se rapproche peut-être de certains procédés poétiques, oui. De certaines libertés qu'a la poésie.
Oui, alors je n'ai pas lu Claude Simon, mais enfin, d'après ce que j'ai les bribes et le documentaire, est-ce qu'on peut dire que Claude Simon, enfin son œuvre du moins, c'est une série de procès-verbaux, de constats de ce qui l'entoure et de ce qu'il a ressenti dans son existence. J'en prie.
Ben non, je pense que ça va beaucoup beaucoup plus loin que simplement ça. C'est-à-dire que là, lui s'amuse un petit peu justement à ramener ça au terre à terre, quoi, parce qu'il y a une espèce de passion du prosaïque aussi chez lui. Mais en permanence, ce prosaïque est toujours que le point de départ pour justement un travail qui va du côté de l'hallucination. Ça prend vraiment la suite de ce que je disais là, quoi. C'est-à-dire que les textes que j'avais conservés sont des textes de description très très plates au départ et qui terminent sur des visions absolument incroyables. Là, par exemple, ce que j'ai lu où à la fin, on est en plein dans la mythologie grecque et dans la constitution des univers, etc. Ben, on est parti d'un simple acte sexuel et en moins d'une page, en fait, on va jusqu'à cette dimension-là. Or, c'est tout le temps, quasiment tout le temps le cas dans ce qu'il fait. Donc il y a effectivement une dimension très simple, c'est-à-dire par exemple vous avez dans l'herbe ou dans les géorgiques comme il l'explique, il recopie des carnets. Donc ça peut être des carnets de comptes, les comptes d'une année, le métayer m'a donné 100, on a eu tant de viande, on a eu tant de patates, etc. Donc c'est très très plat, mais à partir de ça, il arrive systématiquement à aller jusqu'à quelque chose d'incandescent. Et ça, c'est absolument époustouflant, quoi. Et c'est pour ça que ça échappe complètement aux reproches formalistes que certains auteurs auteurs, c'est vraiment trop fort, mais que certains journalistes lui font. Enfin, ça ne marche pas, puisque en permanence, ce qu'il a en tête lui et ce que le texte opère, c'est d'abord le arriver jusqu'à ce point d'incandescence là, quoi.
Bon, s'il n'y a plus de questions, la séance est levée. Merci beaucoup Arnaud Bertina. Et pour finir, je voudrais simplement vous inviter aux séances suivantes. La prochaine est très rapprochée, c'est lundi prochain, et Arlette Farge viendra parler de Pascal Quignard, pardon. Donc c'est l'exception vivante, Pascal Quignard, de cette série de conférences. Au mois de mai, le 25 mai, Clément Rosset viendra parler de Robert Pinget. Et le 22 juin, Jacques Roubaud parlera de Gertrude Stein. Voilà. Bonne fin de soirée.